Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Roréa. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes samedi 18 Farvardin, 1403 du calendrier iranien, 6 avril 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le monde sera bientôt témoin de l'anéantissement du régime israélien, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. Israël sous respiration artificielle, son effondrement est très proche, a déclaré le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. L'axe de la résistance est certain de remporter une grande victoire dans sa bataille contre Israël, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. Crime de guerre à Gaza. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU exige qu'Israël soit tenu pour responsable. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les Palestiniens de Gaza poursuivraient leur résistance jusqu'à ce qu'ils obtiennent la victoire finale. Le régime sioniste est un poignard que la monarchie britannique, trompeuse et perverse, a planté dans le dos de l'Oumma islamique il y a 75 ans. Les administrations américaines exploitent le régime d'Israël et s'en servent comme un pont et un levier politique et sécuritaire pour exercer leur politique criminelle et impérialiste au sein du monde musulman, a-t-il expliqué. Les États-Unis tentent de sauver Israël et de prolonger son existence grâce à une respiration artificielle. Le régime sioniste est condamné à l'effondrement si les États-Unis lui retirent leur soutien, a déclaré le général Salami. Les sionistes et leurs partisans américains croient que plus ils tuent, assiègent et déplacent de musulmans, mieux ils peuvent vivre. Or, ce n'est pas le cas. Le régime de Tel Aviv lutte entre la vie et la mort. Il sait que même en poursuivant la guerre à Gaza ou en se retirant du territoire, ils échoueront, a-t-il ajouté. Le secrétaire général du mouvement de résistance libanais, Hezbollah, affirme qu'Israël n'avait rien obtenu avec son offensive contre la bande de Gaza. Seyed Hassan Nasrallah a fait ses commentaires lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la journée mondiale de Quds. Nasrallah a déclaré qu'Israël n'avait rien obtenu sur le terrain, ni même par la voie diplomatique et les négociations. Nous continuerons la bataille jusqu'à ce que la résistance et Gaza soient victorieux, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. Nous sommes confrontés à un événement qui met en danger la survie d'Israël et révèle sa fragilité, a-t-il souligné. L'important est que nous restions fermes et inébranlables à Gaza, en Cisjordanie occupée, au Liban, au Yémen et en Irak, et c'est une bataille dans laquelle nous nous dirigeons vers la victoire, a déclaré le secrétaire général du Hezbollah libanais. Les Palestiniens de Gaza vivent toujours une spirale sans fin de mort et de dévastation. Le génocide commis par Israël dans le territoire assiégé continue à massacrer. On entre désormais à son 7e mois. Selon le ministère de la Santé de Gaza, les attaques israéliennes ont tué 54 Palestiniens et en ont blessé de nombreux autres en seulement 24 heures. Lors de sa dernière attaque, l'armée israélienne a procédé à des bombardements d'artillerie lourde sur le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, et les avions de combat israéliens ont complètement détruit un immeuble résidentiel dans le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de Gaza. La ville de Rafah, dans le sud, reste aussi la cible d'attaques d'artillerie. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution appelant à ce qu'Israël soit tenu responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. 28 pays ont voté en faveur de la mesure. La résolution exige l'arrêt de toutes les ventes d'armes à Israël, soulignant les avertissements de génocide dans sa guerre à Gaza. Il fait référence à un arrêt rendu par la Cour internationale de justice en janvier, selon lequel il existe un risque plausible de génocide à Gaza. Cette résolution marque pour la première fois que l'organe suprême de l'ONU prend une position claire sur la guerre génocidaire d'Israël en cours contre Gaza. Amnesty International a recueilli de nouveaux éléments de preuve d'attaques illégales meurtrières dans la bande de Gaza occupée qui démontrent que les forces israéliennes continuent de bafouer le droit international humanitaire, anéantissant des familles entières en toute impunité, mieux dire, une vraie campagne génocidaire. Et enfin, la résistance islamique en Irak affirme avoir mené une nouvelle frappe contre une cible israélienne dans les territoires palestiniens occupés. La résistance islamique en Irak a annoncé avoir lancé une opération contre les raffineries de pétrole de la ville portuaire de Haïfa à l'aide des drones. Il a déclaré que l'attaque était une réponse au massacre commis par le régime israélien contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées. La résistance islamique en Irak a annoncé ensuite qu'il poursuivrait ses opérations aussi longtemps que le régime sioniste poursuivrait son effusion de sang dans la bande de Gaza. Ces derniers mois, la résistance islamique en Irak, un groupe qui est actif en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, a mené une série d'attaques contre des positions israéliennes. La résistance islamique en Irak a également frappé des bases militaires américaines en Irak et en Syrie voisine en représailles au soutien complice du gouvernement des États-Unis au génocide palestinien commis par l'armée du régime sioniste dans la bande de Gaza. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Le président iranien Ebrahim Raisi a remercié la nation iranienne pour sa présence épique aux marches grandioses de la Journée mondiale de Quds à travers le pays, affirmant que le mouvement mondial contre les atrocités du régime israélien atteindra certainement à son apogée avec l'anéantissement du régime sioniste. Aujourd'hui, grâce aux ailes et au courage dont font preuve les Palestiniens, il est devenu clair pour tout le monde que le château de papier du sionisme est plus faible qu'une toile d'araignée, a ponctué le président iranien Ebrahim Raisi. La présence épique et estimable des gens à la manifestation de la Journée mondiale de Quds adresse un message très clair à l'arrogance mondiale, a-t-il ajouté. La journée mondiale de Rots est célébrée chaque année le dernier vendredi du mois béni du Ramadan à l'initiative du défunt fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, en août 1979, pour inciter les musulmans du monde entier à s'unir contre le régime sioniste et à soutenir la cause palestinienne. Ce vendredi 5 avril, des millions de personnes en Iran et partout dans le monde se sont rassemblées pour célébrer cet événement, alors que la guerre génocidaire du régime sioniste contre la bande de Gaza se poursuit. Elle a jusqu'à présent fait plus de 33 000 morts palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. En Iran, les manifestants, issus de différents horizons et de diverses couches de la société, ont brandi les drapeaux iraniens et palestiniens, ainsi que des banderoles sur lesquelles étaient libellés « Palestine libre » et « Quds doit être libérée ». Dans un message publié plus tard dans la journée, le président Raisi a exprimé sa gratitude envers le peuple iranien pour avoir honoré sa part de responsabilité à cette occasion. Le peuple iranien a eu une présence glorieuse, il a scellé le pacte d'intégrité et de solidarité avec la nation opprimée et résistante de Gaza en cette période difficile, a affirmé le président iranien. Cette présence épique et digne est un message fort à l'arrogance mondiale. L'oppression, la fureur et les massacres sont voués à l'échec, a-t-il souligné dans son message. Le mouvement mondial et universel donnera ses fruits et les peuples du monde contribueront à la réalisation de la promesse divine et à l'effondrement du régime sioniste, a ajouté le président iranien Ebrahim Raisi.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le dernier vendredi du mois béni de Ramadan est la journée mondiale de Quds, connue par le monde entier. Des millions de gens descendent dans les rues pour exprimer leur colère contre les actes barbares du régime israélien à l'encontre de la Palestine. Mais cette fois, l'atmosphère est bien plus sérieuse et plus différente. Car cette année, bien sûr, Israël mène une guerre génocidaire contre la Palestine. Jusqu'ici, plus de 33 000 personnes ont perdu la vie, donc pour la plupart des femmes et des enfants. Donc la journée mondiale de Quds est une journée très particulière cette année. Et l'Iran appelle au soutien indéfectible à la Palestine. Donc nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
À l'occasion de la journée internationale de Rots, l'Iran appelle la communauté internationale, en particulier les nations musulmanes, à apporter un soutien indéfectible au peuple palestinien qui endure une oppression systématique du régime israélien qualifié de tumeur cancéreuse dans la région. Dans un communiqué publié à la veille de la journée internationale de Rots, le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné avec véhémence la violation flagrante par le régime sioniste du droit et des réglementations internationales des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la bande de Gaza déchirée par la guerre depuis le 7 octobre 2023. Le gouvernement et le noble peuple de la République islamique d'Iran rappellent une fois de plus à la communauté internationale et au gouvernement du monde, en particulier des pays musulmans, leur responsabilité de fournir un soutien total au peuple palestinien opprimé, en particulier aux habitants assiégés et aux victimes de la guerre, a-t-il ajouté. La journée mondiale de Rots, prévue cette année le 5 avril, a été instaurée par l'imam Khomeini, le défunt fondateur de la République islamique. Cet événement est célébré chaque année à travers le monde, le dernier vendredi du mois sacré de jeûne du Ramadan. Le ministère a également sollicité une intervention prompte, décisive et immédiate de la part des gouvernements et des institutions internationales, juridiques et des droits de l'homme afin de mettre un terme aux actes criminels israéliens et d'engager des poursuites pénales à l'encontre des commanditaires, des auteurs et des partisans de ces tragédies humaines. Cette année, la Journée internationale de Rots se déroule au cœur d'une guerre impitoyable menée contre les résidents de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre de l'année précédente, Israël a tué plus de 32 900 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en a blessé près de 75 500 autres à Gaza. Selon l'Observatoire Horomet des droits de l'homme, l'armée israélienne a jusqu'à présent tué plus de 14 400 enfants à Gaza, ce qui signifie que les enfants représentent plus d'un tiers des personnes tuées par Israël sur le territoire. Le communiqué précise qu'en cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de Rots, une foule de centaines de millions de personnes, fervents défenseurs de la justice et ardents partisans de la liberté, élèveront leur voix pour réclamer que la justice soit rendue à la nation palestinienne. Les participants au rassemblement de la Journée mondiale de Rots exige la libération de la Palestine du joug de l'oppression, de la tyrannie, de l'occupation et du génocide, qui est non seulement le premier enjeu du monde de l'islam, mais aussi l'exemple le plus flagrant de violation des droits de l'homme et des lois et réglementations internationales, ajoute le communiqué. Israël a coupé le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau aux Palestiniens vivant dans le territoire côtier. Il affame également délibérément la population de Gaza en détruisant les réserves alimentaires et en limitant sévèrement la circulation de la nourriture, des médicaments et des autres biens humanitaires. L'année dernière, des dizaines de milliers d'Iraniens ont participé aux rassemblements annuels de la Journée internationale de Rots dans la capitale Téhéran dans le cadre d'une grande manifestation de soutien à la Palestine. Des marches et événements similaires ont eu lieu dans plus de 900 villes et villages du pays, selon la responsable.
Eh bien, voilà pour le reportage. Le reportage qui dit beaucoup donc concernant les crimes génocidaires à l'encontre des Palestiniens. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat d'aujourd'hui deux experts des questions internationales, en commençant par Aïssar Midani, intellectuel et analyste politique. Aïssar Midani, bonjour.
Merci de votre invitation. Merci à vous et à toute l'équipe.
Merci, tout le plaisir est pour nous. Aïssar Midani, un grand bonjour à Bernard Cornu, également analyste politique, qui est avec nous depuis la France. Bonjour, Monsieur Cornu.
Bonjour à vous et à toutes.
Je vous êtes géopolitologue et donc bien placé pour répondre à nos questions. Si on consacrait tous nos débats de l'émission Presse TV donc aux crimes donc commis par le régime israélien contre la Palestine, ne serait pas suffisant, car c'est une question extrêmement importante. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la Journée mondiale de Quds. Aïssar Midani, je vois que donc vous êtes vêtu à l'occasion. Qu'avez-vous à dire donc concernant cette Journée mondiale de Rots, je vous prie?
Écoutez, d'abord, c'est une journée où on salue et on soutient le peuple palestinien, mais cette année, c'est très particulier, justement, dans le cadre de ce génocide, comme le disait votre rapport. Et c'est très important parce que la Palestine et les Palestiniens ont besoin du soutien du monde entier pour contrecarrer les vétos américains et puis le soutien américain à Israël qui laisse ces crimes contre l'humanité impunis et ce génocide se prolonger. Donc depuis le 8 octobre, en fait, que ce génocide a lieu, où en fait on voit clairement effectivement l'échec total de cette entité israélienne fantoche, parce que d'abord elle n'a réussi à réaliser aucun de ses objectifs, à part le fait de tuer des quantités d'enfants, de femmes et d'hommes, détruire toute la bande de Gaza, la rendre complètement inhabitable, impropre à la vie, destruction des maisons sur la tête de leurs habitants, destruction des hôpitaux, des écoles, des centres de stockage des alimentaires, les lieux de culte, c'est quand même absolument incroyable. Le dernier crime, là, avant-hier, c'était la destruction totale du complexe hospitalier Shifa, avec en plus une tuerie innommable, je dirais, c'est un massacre total de toutes les personnes qui y travaillaient, des personnes qui y étaient réfugiées, des personnes qui y étaient. Qui y recevaient des soins et donc des blessés, des gens qui utilisent en dialyse, etc., en soins réguliers. Mais tout ça, c'est en toute impunité et en fait au vu et au su du monde entier, alors que les peuples du monde poussent vraiment des grands cris contre ce génocide, y compris le secrétaire général de l'ONU, mais personne n'y peut quoi que ce soit parce que l'ONU est impuissante du blocage américain. Je voudrais quand même rappeler que le Conseil de sécurité a voté aussi l'arrêt et puis même le cessez-le-feu et puis faire entrer des aides alimentaires à la population à Gaza, etc. Oui. Bien sûr, dans le mois du Ramadan, et ça a été dit, les deux derniers jours ou avant la dernière semaine du Ramadan, je rappelle quand même qu'on est dans les derniers jours là, même ça n'a pas pu être appliqué parce que tout de suite les États-Unis ont dit que de toute façon il n'y a absolument aucune application d'appliquer cette décision du Conseil de sécurité.
Absolument.
Alors, effectivement, c'est quelque chose de complètement abject. Le génocide continue, les tueries continuent et personne n'y peut quoi que ce soit puisque on voit que la communauté internationale, en dehors des pays criminels, je veux dire, elle est complètement impuissante. Pour faire appliquer sa loi ou faire appliquer au moins le droit humanitaire international et le droit international. Donc,
absolument.
En fait,
oui.
C'est quelque chose de très important à voir. Et donc, aujourd'hui, le cri des peuples qui soutiennent les Palestiniens est très important pour faire cesser tout ça.
Absolument. Merci à Issa Armidani. Bien sûr, vous avez fait une longue liste donc des crimes que commet Israël à l'encontre de la Palestine. Mais cette liste, c'est interminable. Si on continue encore des heures,
absolument,
vous aurez des choses à dire. Monsieur Bernard Cornu, la colère de la population mondiale contre ces crimes, chaque année, surtout à l'occasion de la Journée mondiale de Rhodes, est importante. Mais cette fois, c'est bien plus sérieuse. Est-ce que vous voyez une différence cette année?
On est en plein d'une guerre qui est qualifiée de génocide plausible ou probable, de risque de génocide par la Cour internationale de justice, et qui est à l'évidence est un génocide puisqu'il y a une intention déclarée d'éliminer le plus possible la vie des Palestiniens à Gaza, d'abîmer cette région par de la pollution, par les armes, par les débris, les centaines de millions de tonnes de débris qui sont accumulés par les bombardements, la destruction des arbres, des serres agricoles. Donc tout ceci témoigne de l'intentionnalité qui a été relevée aussi par la plainte de l'Afrique du Sud et l'ordonnance du 26 janvier de la Cour internationale de justice. Donc tout cela est un constat. Comme c'est aussi la journée d'El Quds, je voudrais rappeler un point fondamental du droit, c'est que lors de l'Assemblée générale, de la résolution 181 de l'Assemblée générale le 29 novembre 1947, il a été dit de créer deux États, un État juif et un État arabe, et aussi de préserver Jérusalem, Al-Quds, dans sa limite de l'époque, comme un corps séparé, un corpus separatum. Donc en fait, ceci est un point juridique important, parce que c'est un point de faiblesse de la prétendue légitimité de l'État israélien sur la Palestine historique, parce que la plupart des pays du monde ont nié le droit d'Israël à occuper Jérusalem. Donc, en fait, c'est un point de faiblesse sur lequel il faut insister. La grande juriste française de droit international, Madame Chemillier-Gendron, qui a encore récemment fait une déclaration devant la Cour internationale de justice, a souvent répété qu'il fallait demander un avis juridique à la Cour internationale sur ce statut de Jérusalem pour confirmer l'illégalité de la présence de l'État israélien, même à Jérusalem, que ce soit Jérusalem-Ouest ou Jérusalem-Est, dans les limites de 1967. C'est un point mineur, mais c'est un point symbolique très important, puisque Jérusalem est en fait aussi une ville symbole pour l'ensemble des religions monothéistes. Et donc, il faut mettre en valeur ce point pour contester la légitimité de l'État israélien et notamment de sa capitale implantée à Jérusalem, évidemment celle du transfert de l'ambassade par un ou deux pays, dont les États-Unis, sur Jérusalem. La France maintient encore sa représentation par un consulat général à Jérusalem-Est, dans un quartier où la rue Émile Botta, où il y a un consulat général, et c'est important de maintenir ce point. Et je rappelle que M. de Villepin a dit encore récemment que l'État palestinien a créé, que la France dit maintenant qu'elle veut créer, que ce n'est plus un tabou, mais on attend toujours sa déclaration, doit comprendre la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est et un territoire pour assurer la continuité entre les différentes parties du futur État de Palestine. Ceci, ce point de droit international est important, c'est, comme l'a dit Mme Rima Hassal, qui est candidate en bonne position, éligible pour le parti de la France insoumise pour les élections européennes. Elle a aussi répété que le droit international est la boussole. C'est la seule chose actuellement viable qui nous permet d'avancer dans les revendications palestiniennes justes pour créer un État de Palestine et imposer des compensations et des concessions à l'État israélien, qui est occupant depuis 56 ans.
Oui. Issa Hamidani, donc des propos très intéressants de la part de M. Bernard Corunou, la légitimité d'Israël. Quelle est votre réaction, je vous prie?
Effectivement, Israël n'a aucune légitimité à occuper les territoires qu'elle occupe aujourd'hui, puisque de toute façon, si on peut dire que la décision de 49 a donné une certaine présence ou une certaine légitimité à cet État, eh ben, qui a été quand même, rappelons-le, créé sur la base de terrorisme et sur la base de plusieurs massacres.
Fait, oui.
Mais malheureusement, ça a été quand même validé par l'ONU, alors que cette même ONU qui a créé l'État israélien a voté une centaine au moins, quand ce n'est pas plus, de décisions et de motions pour lesquelles qui sont restées lettres mortes, et ce même État qui a été vraiment bien chouchouté, je dirais, par les Nations Unies à sa création, ben, il n'a jamais appliqué et il n'a jamais été puni. pire même, parce qu'il y a eu à un moment donné les États l'ensemble des États qui forment l'ONU avaient voté à la majorité quand même une décision qui apparentait le sionisme à l'apartheid, en fait, au racisme, et qui a été retirée après par les pressions américaines, israéliennes, etc., et puis par une corruption, je dirais, par l'argent. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou et incroyable, que cet État qui continue à braver toutes les règles et toutes les lois, etc., continue à être soutenu par des États qui sont pareils d'ailleurs, c'est les États impérialistes qui n'arrêtent pas d'agresser les autres pays et les piller leurs ressources. Et contrairement à cela, les peuples du monde entier, ou je dirais l'éventail des peuples qui soutient aujourd'hui la Palestine, il est de plus en plus grand et il est en train de couvrir pratiquement le monde entier.
Absolument.
Donc ça, c'est quelque chose d'assez important dont il faut tenir compte, capitaliser ce rapport de force pour remettre la justice au peuple palestinien qui a été victime de l'injustice à la fois des Nations Unies qui ont créé Israël sur ses terres, qui ont validé la création d'Israël sur ces terres, et l'injustice qui continue par le soutien de tout un tas de pays impérialistes à un pays qui est en train de grignoter tous les jours ses territoires et d'exterminer sa population. Il faut dire quand même que le génocide d'aujourd'hui, et ça fait 100 ans qu'il dure, et 100 ans il y a massacre après massacre, hein, et dans toute impunité. Donc il est important que les peuples imposent à ces structures internationales une victoire de la justice et du droit, et qu'on arrête quand même de se soumettre à la force américaine, parce qu'ils sont les plus forts et parce qu'ils sont la menace d'une guerre mondiale.
Oui. Parmi les injustices que vous avez citées, Issa Hamidani, vous avez oublié de citer les ogives nucléaires, par exemple, que le régime israélien possède.
Exactement.
Oui, et empêche d'autres pays, tels que l'Iran, par exemple, d'avoir le nucléaire à des fins uniquement pacifiques.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Monsieur Bernard Cornu, il y a quelques jours, vous savez certainement que la section consulaire à Damas de l'Iran a été bombardée, presque des dizaines de morts, donc des martyrs, surtout des Iraniens, juste quelques jours avant la journée mondiale de Rhodes qui se déroule chaque année. Donc, est-ce que c'est une provocation qui va un peu trop loin, à votre avis, M. Bernard Cornu?
C'est une nouvelle provocation après les nombreux bombardements qui ont eu lieu en Syrie contre des civils, contre des militaires, contre des gardiens de la révolution iranienne présents en Syrie, contre des stocks d'armement qui ont été transférés sans doute, qui étaient stockés en Syrie pour approvisionner la lutte légitime contre l'occupation israélienne et d'une partie du Liban aussi, des agressions multiples contre le Liban. Et cette agression du 2 avril concerne à la fois la Syrie, puisque l'espace aérien a été une fois de plus violé par de nombreux missiles, et aussi qui sont venus à travers le Golan occupé, et par aussi une attaque contre la souveraineté iranienne, puisque c'est le consulat général d'Iran, de la République islamique d'Iran, qui a été bombardé, détruit complètement, avec des victimes iraniennes, aussi des victimes civiles syriennes présentes dans le bâtiment à ce moment. Voilà, ceci est une nouvelle provocation. Elle n'a pas été dénoncée par les États-Unis et même pas par la France, dont le ministre a refusé de la qualifier dans sa conférence de presse en présence du secrétaire d'État Blinken il y a aussi trois jours.
Oui, Aïssa Hamidani, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter qu'aucun pays occidental, en fait, des pays de l'OTAN, là, aucun pays n'a dénoncé effectivement ce bombardement. Cette double violation, en fait, à la fois de la souveraineté syrienne et de la souveraineté iranienne par les avions israéliens et par les bombardiers israéliens. Et je pense que, de toute façon, c'était aussi indiqué par, demandé et commandité par les États-Unis, parce que sans ça, alors qu'ils s'en cachent, en fait, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant, etc. Mais ça n'aurait pu se faire que sans le feu vert des Américains, ça d'une part. Et puis d'autre part, il est quand même incroyable de voir qu'il y a eu plus de 200 agressions contre la Syrie de la part d'Israël, qui n'ont jamais été dénoncés aussi par les pays occidentaux, impérialistes, alors que régulièrement, le représentant de la Syrie et des pays amis dénoncent ceci à l'ONU, et rien ne se fait, l'ONU ne fait rien, pareil, pour bloquer ces actions israéliennes de violation, en fait, de la souveraineté de pays qui existent dans l'ONU.
Excusez-moi de vous interrompre. Une question.
Je vous en prie.
Oui. Est-ce que nous serons dans un an ici, dans ce plateau donc, du débat, et nous parlons encore une autre journée mondiale de Quds avec des crimes plus horribles du régime israélien, ou bien sûr les choses vont changer cette année, où il y aura une solidarité donc, du peuple du monde pour arrêter et jouer de la pression sur Israël de cesser ses crimes?
Merci de poser cette question. Moi, je pense effectivement que le monde est en train de changer, que tous les peuples libres du monde et tous les pays libres du monde sont aujourd'hui regroupés autour de la Palestine, soutiennent la Palestine, ça d'une part. D'autre part, que ce monde monopolaire dirigé par les Américains, par la force, aussi est en train de changer, qu'il y a un nouveau monde multipolaire qui est en train de naître. Il y a des forces émergentes, dont l'Iran d'ailleurs, la Russie, la Chine, les BRICS, les pays d'Amérique latine, qui aujourd'hui aussi tous se regroupent autour du peuple palestinien.
Absolument.
Les Africains, oui. Les pays africains qui aujourd'hui aussi jettent loin la couverture ou même le pillage impérialistes de leur pays, et puis ils mettent en place des pouvoirs qui sont beaucoup plus nationaux, nationalistes et qui sont anti-hégémonistes. Donc moi je pense que Israël est en train de s'enliser dans un bourbier qui ne fait que encore plus la noyer.
Oui.
Donc voilà. Oui. Donc ils se noient par leurs propres actes, hein, et je crois qu'ils ont commencé effectivement leur chute et leur vers la fin.
Oui.
Toute façon.
Tout à fait.
Leur fin.
Monsieur Bernard,
en Europe, l'Irlande et l'Espagne protestent aussi.
Allez-y, Monsieur Cornu.
En Europe, l'Irlande et l'Espagne protestent en Europe contre cette politique, et la plupart des sociétés civiles en Europe aussi s'opposent à la politique des gouvernements, notamment en France, en Angleterre, où des avocats aussi ont dit que le Royaume-Uni devenait complice du crime de génocide en cours à Gaza.
Oui, donc
je voudrais ajouter quelque chose aussi, permettez-moi.
Oui. Allez-y.
Je voudrais ajouter que le fait ce génocide à Gaza a pris une dimension mondiale importante, en fait, qui change le monde et qui agit même sur les élections à l'intérieur des pays occidentaux. D'ailleurs, on voit même aux États-Unis les atermoiements et la perte du pouvoir américain, et puis la présence de la Palestine au cœur de la campagne électorale, d'une part, que un parlementaire comme George Galloway, que je salue, a été élu majoritairement, en fait, face à ses adversaires,
oui,
sur la base justement d'une campagne pour Gaza, donc, et pour le peuple palestinien. Donc, en fait, aussi, la présence massive, je dirais, de la question palestinienne dans les rues des pays occidentaux va aussi les changer, oui, et va les obliger à changer. Absolument. Aussi à ce niveau-là.
Absolument. Aïssa Hamidani, merci infiniment d'avoir participé, oui, à cette émission du débat, une émission très importante pour le monde entier. Et donc, un grand merci à M. Bernard Cornu, géopolitologue, qui nous a accompagnés depuis Vaucluse et d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'étape des BRICS pour mettre fin à la domination du dollar américain. Le bloc d'économies émergentes, BRICS, envisage de développer un système de paiement indépendant basé sur les monnaies numériques et la blockchain afin de réduire la dépendance aux systèmes financiers occidentaux. Annonçant ce plan le mois dernier, l'assistant du président russe, Yuri Ushakov, a déclaré que la création d'un système de paiement indépendant des BRICS était un objectif important pour l'avenir, qui serait basé sur des outils de pointe tels que les technologies numériques et la blockchain. L'essentiel est de s'assurer que cela soit pratique pour les gouvernements, les gens ordinaires et les entreprises, et qu'il soit rentable et exempt de toute politique, a déclaré Ushakov à l'agence de presse officielle russe TASS. Coalition initialement composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRICS se sont élargis pour la première fois depuis 2010 pour inclure l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis au début de l'année, avec 44 autres pays qui avaient exprimé leur intérêt à rejoindre le bloc. L'année dernière, les pays des BRICS ont intensifié leurs échanges en monnaie locale pour renforcer leurs économies et contrer le billet vert. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Mahdi Safari, a déclaré que la création d'une monnaie unifiée au sein du groupe BRICS pourrait être très efficace. En utilisant les monnaies nationales, le processus d'élimination de l'utilisation du dollar dans les échanges commerciaux commence. Et nous souhaitons poursuivre ce processus, a déclaré Safari en janvier. Avec d'importantes réserves de change, des ressources naturelles abondantes, une population combinée qui représente plus de 40% de la population mondiale et une vision commune de la coopération multilatérale, les BRICS sont devenus un groupe cohérent de processus économiques et d'influence géopolitique et une force sur laquelle il faut compter. Depuis 2022, lorsque la Russie est devenue la nation la plus sanctionnée au monde à la suite de la guerre en Ukraine, le bloc poursuit sérieusement la création d'une monnaie commune pour dédollariser le commerce et contourner la militarisation du système financier occidental par Washington. Cependant, une monnaie numérique unifiée nécessite des politiques économiques et monétaires cohérentes et compte tenu des nombreuses disparités entre les membres des BRICS, l'idée semble plutôt tirée par les cheveux. Les experts affirment que la blockchain est actuellement une option plus viable et plus simple qui peut aider à concevoir un système de paiement transnational et conduire à l'évolution financière du groupe BRICS en tant que nouvelle ère dans l'économie mondiale. La technologie cryptographique et la blockchain sont déjà considérées comme une alternative potentielle au système SWIFT pour les paiements transfrontaliers qui est sujet à l'ingérence et la manipulation flagrante des États-Unis. Les partisans affirment que la blockchain offre des avantages tels que la rapidité, la transparence, des coûts réduits et une sécurité renforcée grâce au cryptage et à la décentralisation. Cela réduit également la dépendance à l'égard du dollar américain et des monnaies similaires, aidant ainsi les pays BRICS à renforcer leur résilience économique face aux pressions extérieures.
La transparence et la sécurité sont la marque de la blockchain car elle ne nécessite pas d'autorité centrale et son état est maintenu par un consensus distribué. Néanmoins, un facteur clé dans la décision des BRICS est l'autonomie et l'indépendance. En adoptant un système basé sur la blockchain, les pays BRICS peuvent maintenir leur autonomie en matière de politique monétaire tout en bénéficiant de prouesses technologiques partagées. La réserve, le règlement et l'unité de compte font partie des caractéristiques de la monnaie traditionnelle. En acceptant le dollar comme monnaie internationale, les pays du monde se sont exposés aux politiques monétaires de la réserve fédérale américaine. Cela signifie que si la réserve fédérale imprimait de la monnaie pour compenser les déséquilibres financiers et le déficit budgétaire, l'inflation intérieure des États-Unis augmenterait et la valeur du dollar en serait affectée. En d'autres termes, les changements dans la politique américaine et dans le taux du dollar augmentent ou diminuent l'inflation dans d'autres pays. Les pays BRICS recherchent donc un moyen de règlement pour protéger leurs finances contre les effets des changements dans les politiques monétaires américaines. La mise en place d'un système indépendant sur la plateforme blockchain est un événement important. Les BRICS représentent déjà un tiers de l'économie mondiale. Si d'autres pays utilisent leur système, le monde sera témoin d'un changement radical dans les transactions mondiales, marqué par le déclin de la domination du dollar américain. En termes d'intégration économique, politique et juridique, le système est très important et puisque les crypto-monnaies peuvent être utilisées partout dans le monde car elles ne font pas référence aux monnaies nationales. De plus, les investisseurs sont encouragés par des revenus élevés sans impôts ni contrôle. Certains membres des BRICS, comme la Russie et l'Iran, dépendent de la vente de pétrole et de gaz pour leurs revenus nationaux. Le développement des technologies numériques peut contribuer à réduire leur dépendance aux ressources naturelles. De plus, l'utilisation de la technologie numérique pour réduire considérablement le coût de la circulation monétaire, étant donné que, contrairement à la monnaie traditionnelle, la technologie cryptographique n'implique pas l'émission de pièces ou de billets de banque et que les coûts de production et de protection contre la contrefaçon sont également réduits. Enfin et surtout, le passage des BRICS à un système de paiement international basé sur le blockchain et la cryptographie constitue un terrain d'entente pragmatique qui ne défie pas directement l'Occident, permettant à de grandes nations neutres telles que l'Inde et le Brésil de rejoindre le train sans scrupules. La découverte de géantes réserves de pétrole de schiste en Iran. La compagnie nationale iranienne de pétrole affirme que l'Iran avait découvert des gisements de pétrole de schiste dans 10 endroits différents. Le directeur de l'exploration de la compagnie nationale iranienne de pétrole, Mahdi Fakour, a annoncé que le modèle spécialement conçu par la société permettra d'extraire le pétrole de ces ressources géantes dans les provinces iraniennes. Fakour a déclaré qu'au cours de l'année civile iranienne précédente, qui s'est terminée le 19 mars 2024, plus de 2,5 milliards de barils de pétrole ont été ajoutés aux réserves de pétrole brut et de gaz naturel de l'Iran grâce à de nouvelles activités d'exploration. Il a ajouté que les nouvelles découvertes seraient annoncées prochainement par le ministre du pétrole. En outre, il a annoncé le développement d'un modèle unique qui n'a été adopté nulle part dans le monde. Selon le responsable iranien, l'extraction du pétrole de schiste aux États-Unis coûte environ $40 le baril contre $25 en Iran suite à la mise en œuvre du modèle de production dans la province iranienne du Lorestan. En 2017, l'Iran avait découvert des réserves de pétrole de schiste s'élevant à 2 milliards de barils en Lorestan. Le pétrole de schiste est un pétrole non conventionnel produit à partir de fragments de roches de schiste bitumineux par pyrolyse, hydrogénation ou dissolution thermique. L'Iran disposerait de 158 milliards de barils de réserves de pétrole conventionnel, le quatrième au monde.
acquitterán la voz de la República Islámica de Irán.